Et bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est sûr que l'argent, c'est important pour tout le monde, on a tous besoin d'argent pour vivre. Mais c'est pas une priorité pour moi, c'est chanter. Mais c'est sûr que j'aimerais faire de la scène partout dans le monde. Et si je peux apporter quelque chose, si les gens peuvent aimer ma musique, peu importe la langue, c'est sûr que je vais être la fille la plus heureuse sur la Terre.
40 ans de carrière, 24 albums, 230 millions vendus dans le monde entier, des tubes en veux-tu, en voilà, personne n'est censé ignorer Céline Dion. Mais à force de cris, de trémolos et de kitsch, comment fait-elle pour qu'on la supporte encore et même qu'on l'aime encore, et cela depuis ses premières années?
C'est moi, je le vois, je le sens, je le sais.
Je le sens, je le sais.
Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher.
Quand il vient me chercher.
Il aime bien me parler des choses.
Bonjour.
Vous êtes enseignant agrégé de lettres modernes dans un lycée de Seine-et-Marne. Vous êtes auteur de livres sur la pop et après Mariah Carey. Vous êtes donc attaqué, si je puis dire, à Céline Dion. Céline Dion Vestal, c'est le titre de votre livre qui est paru aux éditions Le Mot et Le Reste. C'est sorti tout récemment, le 24 novembre dernier. Je pense que c'est un cadeau de Noël parfait. Donc tout ne commence pas avec cette chanson d'amour et d'amitié, mais c'est la chanson qui a fait connaître Céline Dion. Pourquoi cette chanson qui nous semble aujourd'hui aussi kitsch, presque un peu écœurante, finalement, a tant marqué, a tant marché?
Alors, vous avez raison de dire que D'amour ou d'amitié est la première chanson qui a vraiment marqué. En tout cas, c'est la première chanson qui a marqué en France, puisque Céline est venue l'interpréter chez Michel Drucker, qui l'a présentée comme une future très grande chanteuse. À cette époque-là, elle avait 13 ans. Donc elle avait encore un look d'adolescente, un peu ringarde.
On était au début des années 80, 82, c'est ça?
Oui, 82. Donc si elle avait déjà commencé sa carrière au Québec, c'était vraiment son grand premier moment en France. Ça a été un énorme succès en France, et ça a été un succès un peu unique, parce que toute la musique que René et Céline ont essayé de lancer dans les années 80 en France n'ont pas vraiment fonctionné.
Donc René Angélil, son producteur, ouais. Imaginez-vous que vous vous adressez pas forcément qu'à des fans de Céline Dion, donc René, c'est René Angélil, c'est son producteur, celui qui l'a découvert et qui deviendra après par la suite son mari, le père de ses enfants et qui est décédé en 2016.
Oui, René Angélil, qui a plusieurs décennies de plus qu'elle, est déjà un impresario, après avoir été lui-même chanteur dans un groupe au Québec qui s'appelait Les Baronnets. Et tous les trois, c'était un peu une sorte de blague entre eux parce qu'ils n'ont pas spécialement de talent vocal. Ils n'ont pas non plus vraiment de talent créatif. En fait, au début, ils imitaient des groupes de rock anglais et américains des années 60. Puis dès que les Beatles ont commencé à avoir un succès phénoménal, ils se sont mis à imiter les Beatles. Donc ils ont eu un immense succès au Canada. Grâce à ça, puis finalement se sont rendus compte que c'était pas forcément ce qui les intéressait le plus, eux ce qu'ils voulaient, et les Baronnets les a un peu aidés dans ce sens, c'est observer le show business, l'industrie du disque québécoise, et rentrer dans les arcanes et arriver eux-mêmes à devenir des impresarios importants. René a d'abord essayé avec un jeune chanteur qui était mineur, qui s'appelle René Simard. Ça n'a pas fonctionné puisqu'il est allé trop vite, il a rêvé d'une carrière américaine trop vite. Ensuite, il a voulu être le manager de Ginette Renaud.
Mais elle était qui, Ginette Renaud ?
Une chanteuse québécoise à grande voix, qui est un modèle de Céline Dion, que Céline Dion, dans sa chambre à 10 ans, imitait beaucoup devant son miroir. Sa chanson la plus connue s'appelle « Je ne suis qu'une chanson ». Ça révèle une forme de manie chez les Québécois pour le chant. Il y a beaucoup de chansons qui parlent du fait de chanter. Et Céline Dion, qui était donc obsédée par cette chanson qu'elle interprétait toute seule, c'est comme si elle avait un peu pris en elle le message de la chanson, qui était que, en fait, elle allait vivre à travers ce véhicule qu'elle sera par sa voix. Grâce à sa propre carrière.
Donc vraiment la réduction d'elle-même à une chanson. C'est intéressant, vous avez parlé en fait de l'imitation en fait des baronnets, vraiment être dans l'imitation, et c'est aussi un petit peu le cas de Céline Dion au début. C'est-à-dire que bon, alors cette chanson, elle marche. D'ailleurs, vous n'avez pas vraiment répondu à pourquoi en fait elle a marché. Pourquoi elle a marché cette chanson ? Parce que franchement, elle n'est pas géniale.
Non, elle n'est pas géniale.
Par contre, elle reste bien dans la tête, ça c'est sûr.
Elle reste bien dans la tête. Peut-être que c'est associé au fait qu'elle soit si jeune et qu'on se dise peut-être qu'elle chanteuse quand même hors pair, enfin qui a encore pas mal de défauts, hein, je trouve, vocalement à cette époque-là. Puis il y a cette dernière note qui est un peu Mireille Mathieu, qui est aussi un des modèles et une des personnes qui imite Céline Dion. Je sais pas pourquoi. Le public des années 80 français, peut-être.
Alors, est-ce que vous pensez qu'on la trouve un peu ringarde aujourd'hui parce que précisément elle est datée, elle date de 82, ou parce que c'est aussi un petit peu le style de Céline Dion, de faire des balades, d'être dans des trucs un peu guimauve, quoi.
La production, je trouve, a mal vieilli, comme peut-être une partie des chansons de ces années-là, et aussi. Je pense que le thème est en lui-même un peu ringard, donc le balancement entre m'aime-t-il ou ne m'aime-t-il pas pour une adolescente, enfin c'est un sujet un peu qui semble un peu ridicule. Et surtout quand on sait qu'elle a aucune vie personnelle à cette époque, donc dès lors que ça commence sa carrière à ses 12 ans, elle va totalement arrêter tout contact avec la vie qu'on pourrait dire quotidienne, la vie normale. Elle va très vite arrêter les cours. Et sa vie se résume à faire la tournée des lieux de promotion, aller dans des supermarchés, aller en studio. Elle enregistre un rythme effréné, un album par an. Donc sa vie s'est vite résumée à...
Elle n'est qu'une chanson.
Elle n'est qu'une chanson et elle a vécu que dans l'industrie de la musique. Donc c'est un moment où elle-même, elle vit à travers ses chansons, dans le sens où quand elle parle d'amour, elle ne l'éprouve pas elle-même. Donc, probablement pas, je pense qu'elle n'a pas le temps, ni même peut-être l'envie de penser à ça à ce moment-là. Et donc, c'est comme si elle vivait l'amour par les chansons que lui écrivent les autres. Donc il y a une vie par procuration, en fait, dans ses chansons, dans son adolescence, enfin, dans la première carrière que j'appelle la carrière québécoise, c'est un peu artificiel comme appellation, mais à ce moment-là, elle vit à travers ce que lui écrit Eddy Marnay, puisque son principal parolier, c'est Eddy Marnay, un Français, qui a travaillé avec des grands noms de la chanson française, notamment Édith Piaf, et qui a été tout à fait séduit par le profil et vocal et personnel de cette jeune adolescente québécoise de la banlieue de Montréal, qui vient d'une fratrie de 14 enfants. Elle est née 7 ans après les deux derniers, qui étaient des jumeaux. Donc elle a vraiment un profil atypique. Et c'est une famille dans laquelle on chante énormément, on joue beaucoup d'instruments. Ils ont d'ailleurs eu longtemps un bar musical dans lequel elle se produisait. Donc elle a une vie vraiment tournée autour de la musique.
Vous qui cherchez l'étoile, qui vivez un rêve, vous, héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous, donnez-moi ma chance, emmenez-moi
Ne partez pas sans moi. C'est vrai que cette chanson de Céline Dion n'est pas forcément la plus connue, mais c'est celle qui lui a permis de remporter l'Eurovision à la fin des années 80 pour la Suisse en 89. Alors on est parti de 82, saut dans le temps Valentin Grimaud pour Céline Dion, puisqu'on passe à la fin des années 80. On a parlé de l'imitation très rapidement. C'est une chanteuse qui s'est beaucoup inspirée de chanteuses à voix comme Barbara Streisand par exemple ou Aretha Franklin. Est-ce que à la fin des années 80, elle a trouvé sa voix, justement.
Au moment de Ne partez pas sans moi, je ne dirais pas qu'elle ait trouvé sa voix, même si, jusqu'à même aujourd'hui, une composante de son univers, c'est l'imitation et l'interprétation de morceaux, de répertoires qui ne sont pas les siens. Donc ça fait aussi partie de tout ce qui pourrait être la tradition de la chanteuse à texte ou à répertoire. Mais en 88... Ne partez pas sans moi, c'est encore une chanson qu'on lui donne, qui n'a pas vraiment de lien avec qui elle est. Et c'est une chanson qui, je trouve, coche toutes les cases de la panoplie de la chanson des années 80. Les synthés en spirale, les grands moments vocaux, les accélérations, qui est un peu un côté Whitney Houston, qui est aussi une de ses grandes inspirations des années 80. Donc c'est comme si elle avait un peu fait feu de toute voix à ce moment-là, et que c'était de cette manière-là qu'elle s'était construite, en faisant une sorte de pêle-mêle de ce qu'elle entendait. Elle a l'oreille absolue en plus, donc elle a un don particulier pour l'imitation. Elle est très forte pour les imitations, même pas mélodiques,
mais humoristiques, ouais.
Je pense qu'elle n'est pas encore sortie là de l'imitation.
Et ce qui est intéressant, c'est ce travail en fait sur la voix. On sent quand même qu'elle est beaucoup plus assurée, qu'elle pose mieux sa voix. On a l'impression qu'il y a un peu plus une coïncidence entre peut-être le texte ou en tout cas l'ambiance de la chanson et elle-même. On sent qu'elle a grandi, mais on a l'impression que vous en parlez presque comme d'une coquille vide. C'est-à-dire que vraiment la voix n'est pas remplie, la voix est vraiment juste un organe, un moyen de communication, quelque chose de très plastique, mais pas quelque chose qui lui appartient. Elle n'a pas de voix propre.
Alors c'est intéressant ce que vous dites sur l'organe qui est une sorte de voix plastique, parce que quand elle était petite et qu'elle chantait les chansons anglaises, elle ne comprenait pas l'anglais et donc elle s'amusait à imiter des paroles qu'elle ne comprenait pas. Donc pour elle, c'était une quête uniquement mélodique et qui n'était pas une quête d'interprétation. Et elle raconte souvent que dès qu'elle a su parler anglais, elle s'est rendue compte de ce qu'elle chantait quand elle était petite, quand elle chantait Fame, quand elle chantait Whitney Houston. Elle a compris de quoi est-ce qu'elle parlait. Et la leçon, alors ce qu'on a entendu avant, d'amour et d'amitié, elle a 12-13 ans, donc elle a une voix d'adolescente qui est pas, même l'organe n'est pas lui-même fini physiologiquement. Donc il a fallu attendre qu'il y ait ce changement. Et puis ensuite, la conquête de sa voix a été assez progressive. Eddy Marnay, son premier parolier, a essayé de lui apprendre à mettre du sens derrière les mots, a essayé d'avoir une voix moins explosive, parce que chez Céline, il y a cette tendance à toujours aller plus haut pour prouver qu'elle est la meilleure, pour prouver que... Mais même, je pense, par jouissance personnelle de sa voix, je pense qu'elle adore faire l'expérience de la puissance de sa propre voix. Et ça, elle a dû arriver à le domestiquer, et ça lui a pris longtemps. À Paris... vers 14-15 ans, elle a fréquenté une ancienne chanteuse qui s'appelle Tosca Marmor, qui est aussi pianiste, et qui a donné des cours de chant à tous les grands chanteurs français, et même à des comédiens qui avaient besoin de cours de chant. Donc elle a eu plusieurs enseignants, et à ce moment-là, je pense qu'elle n'a pas atteint le point qui lui permettra d'être en pleine maîtrise de sa voix. Mmh. Et ce point, ce sera une crise de voix qu'elle a en 91, où elle perd totalement la voix. Un jour, en concert, elle s'arrête d'un coup. Et c'est là qu'elle a rencontré plusieurs ORL qui lui ont dit « Vous l'abîmez trop, vous chantez mal d'un point de vue du respect de vos cordes vocales. Oui. » Et donc, il va falloir faire une rééducation. Et avant cela, c'est un peu la légende, avant cela, vous ne parlerez pas pendant 3 semaines. Et donc Céline n'a pas parlé pendant 3 semaines, a repris des cours de chant, a repris bien sûr les tournées, elle était obligée, mais en essayant de s'économiser. Et ensuite, ils lui ont dit, c'est bien, vous commencez votre travail maintenant, il faut changer votre mode de vie, il faut arrêter de manger des choses qui puissent vous empêcher de chanter correctement.
Trop glacé, par exemple ou...
Trop glacé, trop de sel, trop de matière grasse, pas boire de café parce que ça stresse les cordes vocales. Il y a beaucoup de choses, il y a tout un...
Un régime auquel elle s'astreint encore, en fait, de... un régime de vie, en fait.
Oui, qu'elle, elle a embrassé avec grande joie, parce que ça lui rappelait un peu les sportives. Elle est très admirative des sportives, et en particulier des gymnastes, et aussi très admirative des religieuses. Et pour elle, elle avait l'impression de rentrer en religion. Elle se dit maintenant, ma voix est une sorte de déesse double à laquelle je dois rendre un culte, et donc il faut que je ne fasse pas d'impair. Et elle n'a jamais, je pense, fait d'impair. C'était le bonheur dans la discipline.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que la voix, le chant, c'est toute la vie de Céline Dion. Vous êtes en train de l'expliquer très bien, Valentin Grimaud, ce régime qu'elle suit, ce mode de vie auquel elle s'adonne. Et en même temps, on a l'impression que cette voix qu'elle chérit, qu'elle embrasse, qu'elle chouchoute et qui plaît à tant de monde, on ne sait pas véritablement en fait de quoi elle est faite. C'est presque même cette quête du sens, c'est presque une problématique qu'on pourrait retrouver chez n'importe quelle chanteuse à voix. Oui, c'est super une voix, mais pour en faire quoi? Pour dire quoi? Est-ce que Céline Dion a été confrontée à ce problème-là ou est-ce que d'une certaine manière, elle le dépasse?
Je pense qu'elle se dit... Alors, son premier album s'appelle La Voix du Bon Dieu. Il me semble qu'il y a une forme de religiosité dans son rapport à sa voix, peut-être de se dire qu'elle remplit une fonction supérieure grâce à cette voix, qu'elle fait passer l'émotion, qu'elle sert de voix cathartique pour les autres. Je pense qu'elle a foi en cette idée-là, qu'elle est un véhicule d'émotion. C'est aussi pour ça que j'ai appelé le livre « Vestal ». En fait, il me semble qu'elle est un peu comme ces prêtresses de l'Empire romain auxquelles on rendait un culte qui était vestale étant adolescente et qui faisait vœu de chasteté et dont la vie était réglée sur s'adonner au culte de Vesta, la déesse romaine du foyer, de la famille. Et donc, je pense que cette voix, sans le conscientiser forcément, mais... elle le considère un peu comme un objet religieux qui va donner du bien aux autres.
Mais pas plus que ça. C'est-à-dire que elle, c'est vraiment un moyen. On en revient quand même à la voix comme moyen. C'est-à-dire pour exprimer quelque chose qu'elle n'a pas à exprimer elle. Finalement, en fait, l'idée, c'est quand même qui est cette personne en fait que des gens adorent. Mais en fait, presque la personne devient dérisoire. C'est presque sa voix. Il n'y a que sa voix qui compte, mais voilà, qui n'ont rien à voir avec elle-même presque.
Moi, c'est ce que je pense de toute sa musique anglophone, qu'il y a peu d'expression d'elle-même, qu'en fait, c'est pas une musique dans laquelle elle se projette. Il y a eu des moments quand son amour pour René Angélil, donc après l'Eurovision, elle rentre dans sa chambre, ils s'avouent leur amour, bon, ils deviennent un couple, mais ça reste caché. Et ils décident d'en parler qu'en 94. Et René ne voulait pas, René Angélil, en disant que ça allait couler sa carrière, qu'allait penser le public de cet amour-là. Céline, je pense qu'à ce moment-là, un des rares moments de sa carrière anglophone, chanter l'amour, c'était une manière de parler à René et de dire à tout le monde, un peu sous couvert de ses paroles et de ce véhicule un peu général, de parler de son amour pour René. Donc là, parfois, il y a des sortes d'échos par rapport à sa biographie dans les chansons.
Mais sinon, rien d'autre.
Après, il y a eu quelques chansons qui sont vraiment autobiographiques. Par exemple, « That's the woman in me », qui est de 2007, ou d'autres de Linda Perry, que cette parolière a vraiment écrite en pensant à Céline Dion, ou celle que Pink, la chanteuse américaine, lui a écrite, qui s'appelle « Recovering », après la mort de René Angélil. C'est des rares instances en anglais où elle parle vraiment d'elle-même. Sinon, elle est... elle représente l'amour ou la famille ou la tradition.
En fait, elle représente des concepts, mais oui. Elle ne représente pas elle-même. C'est ça qui est intéressant.
Même aux États-Unis, quand je chante en anglais ou quand je chante en anglais pour les Japonais, je vais te dire, ben franchement, je trouve qu'il n'y a pas de différence parce que c'est pratiquement... Bon, c'est sûr que je m'adapte. Je vais pas arriver en France puis leur dire « Ah ouais, là, tu sais, je veux dire, ils pourront pas chanter ça avec moi. » Tu comprends ce que je veux dire? Je ferais peut-être pas ça au Québec non plus, là, mais ce que je veux dire, c'est que je m'adapte à l'audience aussi. Bon, je parle en anglais quand il y a 90% de monde qui parle juste anglais dans la salle. Verbalement parlant, je m'adapte à l'audience, mais les chansons restent les mêmes. Puis moi, j'ai pas quatre personnages qui m'accompagnent dans ma vie, là, tu sais. Céline Dion, je suis la même chanteuse en français, en anglais, pour un peuple ou un autre. Les gens sont les mêmes partout pour moi. Ils ont les mêmes émotions, ils ont des hauts, des bas, des misères, des joies, et moi, je me présente sur scène de la même façon.
Je ne connaissais pas cette chanson de 1993 de Céline Dion. Il faudrait quand même qu'on aborde la question, Valentin Grimaud, du chant à la fois en anglais et en français. Est-ce que ça change des choses pour elle? Apparemment non, parce qu'on en revient quand même dans l'archive qu'on a entendue d'elle. On a l'impression qu'elle chante en anglais, en français, dans une autre langue. Finalement, elle s'adapte. Il n'y a qu'une Céline Dion. Le problème étant quand même que Céline Dion, justement, bah, on ne sait pas vraiment qui elle est. Elle n'est qu'une voix. Comment on pourrait définir, c'est ça la question qui m'intéresse, cette voix. On entend, elle cherche d'aller le plus haut possible. Quand on imite Céline Dion en karaoké, le principe c'est de hurler le plus fort. Est-ce que c'est ça, Céline Dion, c'est vraiment la recherche de la note impossible, la plus haute qui soit?
L'archive est intéressante parce qu'elle dit donc pour elle, tous les publics sont les mêmes, qu'en tout cas, elle aura le même respect pour eux, elle leur présentera les mêmes chansons, elle aura la même qualité, que ce soit chanson en français ou en anglais, ou dans d'autres langues, elle dit qu'elle reste la même, et ça, je pense que c'est vrai, elle a une forme d'intégrité éthique par rapport à la manière dont elle se présente, et je pense que c'est le fait que sa personnalité soit aussi accessible qui a créé une connexion avec les gens. En revanche, entre ses chansons en anglais et ses chansons en français, il me semble que, et je pense qu'on pourrait même dire ses chansons en québécois d'ailleurs, il y a une manière de chanter qui est radicalement différente. Donc là, l'extrait...
C'est pas la même voix ?
Je pense que ce sont des techniques différentes qu'elle a eues par imitation certaines. Par exemple, la voix américaine.
Qu'on a entendue dans l'extrait, là.
Oui, Think Twice, je pense que c'est une de ses interprétations les plus volcaniques. Là, on a vraiment eu le moment de la chanson explosive qui va jusqu'à presque... en fait, on dirait qu'il y a une forme de blessure de la voix, tellement il y a une passion. Ça, c'est les chansons autour de 93-94, et je les trouve assez impressionnantes. Ça, c'est la manière de chanter américaine. Donc, cette recherche de la puissance, de la domination, et c'est aussi ce type de chansons qui ont dominé les hit parades pour la première fois. C'est avec ce type de chansons qu'elle a été pour la première fois numéro 1, par exemple, aux États-Unis. Et il y a toute une théorie à l'époque autour de ce qu'on appelle les « money notes », donc les chansons en or, les notes en or, qui vont permettre d'atteindre le succès. C'est le producteur canadien David Foster qui en parle le plus. Celui qui a par exemple composé « I Will Always Love You », la reprise par Whitney Houston de Dolly Parton, où on a cette note inoubliable qui fait qu'on ne peut que écouter et que dire que la chanteuse est exceptionnelle. Il y a cette recherche de la performance dans la chanson américaine, qu'elle a dominé, parce que il y a un moment, elle était la seule à pouvoir arriver à faire ça.
Même Whitney Houston, même Mariah Carey,
alors,
Lara Fabian, que sais-je.
Par rapport à Whitney Houston, je pense qu'elles ont une voix qui pourrait plutôt être rapprochée. C'est-à-dire qu'elles, leur grande puissance, elle est dans la voix de poitrine. C'est-à-dire des notes qui résonnent dans la poitrine, donc qui ont comme cage de résonance dans le corps la poitrine. Alors que Mariah Carey, qui était très forte en début de carrière en voix de poitrine, sa spécialité, c'est quand même la voix de tête, c'est-à-dire les notes qui semblent plus aériennes, qui résonnent dans la boîte crânienne et qui n'ont donc pas la même force, la même puissance, la même domination. Et même pour Mariah Carey, plus aiguë encore, la voix de sifflet, qui est une sorte d'émanation ultra aiguë qui semble irréelle, non humaine. Ce sont des types de notes, la voix de sifflet, que ne font pas Whitney Houston ou Céline Dion. C'est vraiment des chanteuses, elles, telluriques, à côté de Mariah Carey, qui est plutôt aérienne. Céleste.
Et donc, en ce qui concerne cette voix, est-ce que vous direz qu'elle est reconnaissable entre toutes ou que, bon, bah, elle fait partie d'un ensemble de chanteuses à voix, avec des petites distinctions, mais enfin, finalement, rien de très identifiable?
Ce qui est étonnant, c'est qu'on lui a souvent reproché pendant longtemps d'avoir une voix passe-partout. De se dire, voilà, bah, donc elle n'a pas d'émotion sincère, elle ne chante pas à propos d'elle. Et en plus, elle chante comme une américaine, elle fait Barbra Streisand. Elle a une voix reconnaissable. Enfin, je pense que c'est un constat empirique qu'on fait tous quand on entend Céline Dion en anglais, en français, les premières chansons. On sait tout de suite que c'est elle.
Mais c'est de l'habitude, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on l'entend sortir des albums et parler.
Une forme d'habitude, et je pense qu'elle a un grain de voix particulier. Dans le livre, je développe un peu l'idée que je pense que qu'elle chante en anglais ou en français, il y a toujours une sorte de substrat qui reste, de phonétique québécoise. Et je pense qu'il y a toujours un rapport à la nasalité dans les voyelles nasales ou dans les voyelles normales, où il y a toujours un voile dessus qui nous rappelle un peu qu'elle n'a pas une prononciation tout à fait américaine. De toute façon, c'est une prononciation qu'elle a apprise à 18 ans. Même encore aujourd'hui, quand on l'entend sur des plateaux télé, elle n'a pas un anglais parfait. Et tant mieux, je trouve que c'est super qu'elle ait cet accent américain avec quand même un rappel de sa phonologie d'origine, et en français aussi. C'est ce qu'a essayé Jean-Jacques Goldman. Alors, tout à l'heure, on parlait de sa manière de chanter américaine. Pour sa manière de chanter plutôt française, qu'elle a acquise sur le tard, au milieu des années 90, grâce à Jean-Jacques Goldman et Luc Plamondon, il y a tout un travail d'essayer d'aplatir la nasalité pour avoir un son plus doux, un son qu'elle-même qualifie de plus poétique, grâce auquel elle pourra mieux faire ressortir la valeur des mots et la valeur de ce qu'elle chante. Et donc, avec Jean-Jacques Goldman, elle a trouvé un parolier qui a non seulement été quelqu'un qui lui a offert des textes vraiment autobiographiques, dans lesquels il y a aussi une part de fantasme, peut-être qu'on en reparlera, mais Goldman écrit pas tout à fait à sa place, mais projette sur elle ce qu'il imagine dans cette chanteuse québécoise, nord-américaine, lui qui était très fasciné d'ailleurs par la musique des États-Unis. Et elle va essayer de justement adoucir ce travail de cri, presque wagnérien parfois, hein. On disait qu'elle était... Enfin, c'est ce que déteste Adorno, par exemple, dans la musique pop, c'est-à-dire que c'est un style trop wagnérien. Donc elle va chercher, dans ce parler français, dans ce chant plus poétique, à trouver une autre résonance pour les interprétations des chansons.
Alors je vous propose qu'on écoute tout de suite la chanson qui a marqué la France en 1995, c'est « Pour que tu m'aimes encore », puisqu'on parle de Jean-Jacques Goldman.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps. Que si tout s'appelasse, les amours s'y passent. faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. N'allez pas commencer à tirer, à toucher. N'allez pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres. Oh, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, je dirai sans
je sais que je vais enregistrer une chanson. Je me dis, bon, ce soir, j'aimerais bien enregistrer pour que tu m'aimes encore. Je me lève vers 2h de l'après-midi parce que je dors beaucoup. Je me lève, je prends le petit déjeuner, le déjeuner en même temps dans ma chambre. Je parle pas, je repose ma voix. J'écoute la chanson 3-4 fois et c'est tout. Je vais en studio et je le fais parce que j'aime bien les choses naturelles. J'aime bien quand on sent que j'ai pas travaillé chaque note, chaque mot, chaque feeling, chaque... Ça, j'aime pas ça, sentir ça. Il y a des chansons qui ont besoin de plus de travail que d'autres. Mais j'aime bien quand je me fais quelque chose à moi aussi, quand je m'émeus moi-même, quand je me touche moi-même. C'est-à-dire, je veux pas que ça sonne prétentieux, ce que je veux dire, c'est que quand je me surprends moi aussi par une émotion qui me prend moi-même.
Céline Dion nous dit un peu plus comment elle interprète Pour que tu m'aimes encore, qui personnellement est ma chanson préférée. C'est pour ça que j'étais très contente de la passer en entier sur les ondes de France Culture. C'est intéressant la manière dont elle dit, Valentin Grimaud, qu'en fait, elle ne veut pas trop travailler finalement une chanson et qu'elle a appris, ou peut-être qu'elle se fait confiance pour que les émotions sortent naturellement. Ça veut dire qu'elle veut bien travailler sa voix, elle a appris à travailler sa voix. Par contre, pour ce qui est du sens et de l'émotion, il faut vraiment presque qu'il y ait une forme de surgissement spontané, c'est presque un anti-intellectualisme.
Oui, peut-être qu'à ce moment-là de sa carrière, elle commence à être lassée par les producteurs américains qui lui font faire 20 prises, qui ensuite choisissent sans elle, et d'être un peu cette machine à chanter, alors que probablement la première ou la deuxième était déjà parfaite. Donc là, puisqu'elle a avec Jean-Jacques Goldman la possibilité de chanter tel qu'elle le veut, comme elle le dit, elle se laisse un temps d'immersion dans la chanson qui est très rapide et qui donc va la laisser chanter de manière tout à fait spontanée et produire quelque chose de plus naturel.
Et donc, ce qui veut dire que sur cette, ce côté naturel aussi, c'est une question est-ce que de confiance ou plutôt de légitimité qu'elle a acquise. Parce que faut quand même dire, quand Céline Dion en fait débarque en France au milieu des années 90, elle a pas du tout, elle est presque pas connue. Enfin, elle est un petit peu connue en France, mais pas spécialement. Et c'est quand même un album qui va lui donner de l'autorité, de la légitimité, une forme même d'authenticité. C'est-à-dire qu'elle n'est plus la chanteuse à voix un petit peu creuse, mais vraiment quelqu'un qui va marquer, qui va toucher. D'ailleurs, c'est intéressant, dans l'archive, elle dit « je me touche », manière de dire, en fait, il faut que ça me touche pour que je puisse le chanter de manière juste. Ça veut dire qu'elle n'a plus du tout la même présence. Elle devient presque consistante.
Mmh. L'album 2, dont est issu « Pour que tu m'aimes encore », a été un véritable raz-de-marée en France. C'est l'album le plus vendu de tous les temps en France et de facto l'album francophone le plus vendu au monde. Et pour nous, c'est difficile de nous imaginer que Céline Dion n'a pas toujours été connue de tout le monde. Mmh. Mais avant cet album-là, en France, le succès commence tout juste. Et Un garçon pas comme les autres, Ziggy, c'est son premier vrai succès. Avant cela, elle n'a pas vraiment percé dans le marché français. Et ce début de légitimité dont vous parlez commence au moment où elle sort un album intégralement écrit par Luc Plamondon, qui s'appelle « Des mots qui sonnent », dans lequel il y a quelques chansons inédites, écrites pour elle par Luc Plamondon. D'ailleurs, une qui s'appelle « Des mots qui sonnent » et qui parle... Enfin, qui donne la parole à Céline en tant que chanteuse, qui quémande des chansons et des paroles aux paroliers. Et donc, il y a une sorte de... Enfin, qui devient véritablement autobiographique à ce moment-là, par opposition à toutes les chansons un peu creuses et sentimentales dont on a pu parler. Et elle reprend aussi, ce qui va lui donner beaucoup de légitimité, des classiques de Starmania. Et elle interprète plusieurs rôles. Elle va chanter Ziggy, elle va chanter le blues du businessman... En fait, elle montre qu'elle peut rentrer dans ce répertoire-là et donc devenir une personne sérieuse. Et ça a été très bien accueilli d'ailleurs, puisque les gens se sont dit, en fait, elle a une voix qui peut être intelligente, une voix qui peut vraiment ressentir les textes.
Mais c'est incroyable parce que ça veut dire qu'il faut absolument se justifier. Une chanteuse doit savoir se justifier sur sa compréhension des textes, sur son intelligence. Il y a aussi un cliché quand même qui consiste à dire que pour comprendre en fait une chanson, il faudrait chanter avec une voix contenue, nuancée. Pourquoi ces clichés-là en fait envers les musiques, les chansons qui sont construites vraiment sur des voix et sur des notes très hautes en fait? Pourquoi chanter fort, ce serait forcément chanter con ou bête?
Comme vous disiez, oui, là, il y a ce moment-là où on lui reconnaît peut-être un talent, en tout cas une intelligence dans le chant. Et Jean-Jacques Goldman est dans ces clichés dont vous parlez, puisque lui, il a ce... En fait, c'est lui qui est venu voir Céline Dion et qui lui a dit « Je pense que vous méritez mieux. Je pense que vous avez besoin d'une musique à votre hauteur, une musique qui soit pas du cri, une musique qui trouve des nuances. » Et il est allé la voir avec un album presque, elle en parle dans l'archive Céline Dion, avec un album quasiment prêt et qui lui présente en disant « Voilà ce que vous m'avez inspiré. » Et les gens à l'époque se sont dit « Mais qu'est-ce que Goldman va faire avec Céline Dion ?» Il y a des articles du Monde qui sont affreux de l'époque, qui disent que c'est une combine marketing pour mettre le succès avec le succès. Et donc il y a cette méfiance en fait dès lors qu'une chanteuse plaît aux masses grâce à un chant un peu fort, il y a une méfiance de la critique. Et on en reparlera probablement, mais Carl Wilson, c'est la question qui s'est posée en 2007, un critique canadien expert en rock qui dit mais si il y a des milliards de gens qui écoutent Céline Dion sur Terre, pourquoi c'est mauvais? Il y a forcément quelque chose.
Ou alors des milliards d'individus auraient mauvais goût, c'est ça c'est ça la seule réponse. Oui, effectivement, vous parlez, enfin Carl Wilson parle de Céline bashing. On peut citer d'ailleurs quelques titres de la presse que vous citez dans votre livre, Valentin Grimaud. Donc il y a simple produit à polir les meubles, ça c'est dans le magazine Rolling Stone. La femme la plus entièrement répugnante qui ait jamais chanté des chansons d'amour, ça c'est le Massive Swelling de Cynthra Wilson. Et puis pire aussi, coincée entre le vomi et l'indifférence, une fanbase doit bien exister, un certain grand public d'une Angleterre moyenne qui demeure invisible à nos yeux. C'est terrible en fait, et j'en passe parce que vous en citez d'autres. Donc il y a vraiment, en fait, il faut quand même revenir sur ce dégoût ou ce mépris à la fois pour la voix, mais de toute façon, en fait, même dans le cas de l'album de Goldman, que Goldman a fait pour elle, en fait, d'une sorte de mépris. Quoi qu'elle fasse, Céline Dion ne peut pas se racheter au prix d'un certain public qui ne supporte pas ce genre de chanteuse. De toute façon, qu'elle chante nuancée, intelligente, qu'elle soit bête, qu'elle en fasse des tonnes, qu'elle soit à Las Vegas, à Paris, au Québec, peu importe, en fait, elle représente ce qu'aiment les masses, donc c'est forcément détestable.
Oui, mais c'est un stigmate qui est, je pense, sur toutes les chanteuses, surtout d'ailleurs, ou chanteur pop, c'est-à-dire que dès lors que c'est une musique qui fait partie d'une industrie, ce sera forcément mauvais ou calculé pour être. Il peut pas y avoir de part d'art quand c'est une entreprise commerciale, et ça c'est un cliché qui est resté longtemps. Et c'est vraiment très récent aujourd'hui que tout le monde finalement se dise « Oh, mais c'est vrai que Céline, c'est pas mal quand même » ou « C'est vrai qu'on a des souvenirs avec Céline ». Il y a eu un retour en gloire ces dernières années d'un point de vue critique et d'un point de vue de l'appréciation du public. Mais c'est vrai que pendant longtemps, elle était... Oui, c'est un stigmate. Puis donc, dire qu'elle est pas intelligente ou qu'elle vient d'ailleurs, parce que toujours considérée comme une étrangère, étant d'une nation vraiment minoritaire, où qu'elle soit, elle est l'autre... aux États-Unis, c'est pas une américaine non plus. Elle est même pas considérée comme comme blanche dans les cases des États-Unis parce qu'elle est pas américaine. Donc par exemple, il y a des fois où elle a chanté par exemple au concert de la famille Jackson et c'était la seule blanche parce qu'elle est pas considérée, elle est hors de tout ça. Et donc pour en revenir à tout ce mépris, c'est assez récent qu'elle a réussi à s'en débarrasser et pas totalement encore puisque il y a des médias qui s'amusent beaucoup et parfois de manière, je trouve, légitime à pointer ses défauts parce que c'est une cible facile, parce qu'elle a aussi une image publique où elle se répète beaucoup, où elle fait toujours les mêmes choses.
Elle a des mimiques, elle a des postures.
Qui sont facilement caricaturales. Donc, elle, je pense qu'elle a souvent plutôt mal vécu, mais en même temps, ce qui la valide, elle, et ce qui la légitime, c'est son succès. S'il y a des gens qui continuent à lui dire qu'elle leur donne du bonheur, ou si elle remplit des stades, c'est que finalement, ses critiques, ils comptent pour rien. Et même aujourd'hui, il y a une forme de bienveillance par rapport à elle, depuis la mort de René, et puis le virage un peu camp qu'elle a pris.
Donc ensuite. Camp, vous pouvez expliquer ce que c'est ?
Alors le camp, C-A-M-P, c'est une esthétique qui a été définie par Susan Sontag, qui a émergé dans les milieux homosexuels et en particulier dans les milieux des drag queens. Et donc le camp, c'est une démarche qui consiste à outrer les rôles sociaux et en particulier le rôle genré. Donc par exemple, les drag queens sont parfaitement camp puisqu'elles vont être dans une parodie de féminité qui est à la fois une appropriation sérieuse mais en même temps quelque chose qui est toujours au second degré parce qu'on va réutiliser des éléments qu'on a déjà vus et on va jouer un personnage, on va être artificiel, on va outrer le maquillage, outrer les habits. Et Céline, elle a embrassé cette... Il y a certaines choses de sa carrière qui peuvent être camp a posteriori, c'est-à-dire qu'on le regarde maintenant et on se dit, oh, qu'est-ce que c'était camp quand même. Mais à partir de
Mais à l'époque,
2016,
ça l'était pas forcément, parce qu'elle était pas forcément réflexive ou par rapport à ça, alors qu'à partir de 2016, la mort de René Angélil...
Elle se dit, maintenant je veux m'amuser. Elle a toujours adoré danser, elle a toujours adoré la mode, mais elle a toujours été obligée de garder cette image traditionnelle, donc s'habiller plutôt lisse, être souriante, être consensuelle. Et là, elle se dit...
Et puis être docile avec les producteurs, avec les paroliers, les producteurs même avec Goldman, en fait, d'une certaine manière, faire le travail qu'on lui demande de faire.
Alors, je pense qu'elle a peut-être gardé après la docilité, parce que je pense qu'elle aime bien se sentir... Enfin, en tant qu'interprète, elle aime bien ce rapport-là, de se dire, je veux rentrer exactement dans ce qu'il me demande. Mais elle a eu plus la liberté de choisir ce qu'elle voulait faire à partir de ce moment-là, parce qu'elle est devenue, pas tout de suite, mais très vite, sa propre manager... et elle a embauché le styliste le plus audacieux de l'époque, qui s'appelle Lou Roach, et qui l'a complètement relooké avec des coupes de cheveux dans l'air du temps, avec des tenues extrêmement audacieuses, soit très dénudées, soit très habillées, avec des proportions très, très amples, ou alors des choses très cintrées, et une grande, grande diversité de tenues. Et c'est là qu'en fait... Elle qui était si traditionnelle, devient anticonformiste parce qu'elle est veuve, elle a 50 ans, elle a des enfants et elle devient la coqueluche de la mode en ayant des tenues qu'on n'autorise pas à Madonna, qui est complètement dénigrée pour essayer de rester jeune.
Qui suit le chemin presque inverse de Céline Dion, c'est-à-dire que Madonna était très cool pendant un moment, c'était une figure, la reine de la pop, alors que Céline Dion était un petit peu la ringarde kitsch. D'ailleurs, vous parlez d'une esthétique, un terme que je ne connaissais pas, schmaltz, on dit
Oui, schmaltz, ou nous en français on peut le dire schmaltz.
C'est quoi, mièvre, sensible?
Alors ça, c'est une esthétique, je dirais, qu'elle a plutôt eu dans les années 90-2000. Oui, c'est une forme de mièvrerie, de sentimentalité dégoulinante. Donc ça, pour moi, c'est surtout sa musique américaine qui sacrifie au schmaltz. Et en fait, c'est un terme qui vient du yiddish et qui est arrivé dans la langue allemande. Et schmelzen, ça veut dire fondre. Donc c'était pour la graisse de poulet. Et ça décrit finalement une forme de musicalité donc héritée du bel canto, des fioritures de l'opéra italien, qui sont de la pure esbrouffe. Et aussi, il y a un rapport à l'émotion dans le schmaltz, qui est l'émotion d'une personne déracinée. Donc souvent, les interprètes de schmaltz, Julio Iglesias, Nana Mouskouri, sont des personnes étrangères qui vont chanter leur déplacement, leur déracinement. Et c'est vrai que Céline, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle n'est pas américaine, mais elle a pris en charge l'émotivité américaine pendant plusieurs décennies. Et donc, le schmaltz, finalement, le kemp, ça a été une forme d'antidote au schmaltz, oui. Puisque au lieu d'être sincèrement dans cette émotion, elle est rentrée, elle a pris un degré en plus, et elle a voulu rentrer dans la blague de sa ringardise. Et c'est là que, finalement, le public l'a complètement adoptée et l'a autorisée à être audacieuse, parce que justement, jusque-là, elle avait été au premier degré.
Alors en 2002, parce qu'on n'en a pas encore parlé, Valentin Grimaud, en 2002, donc avant en fait cette prise en charge par elle-même finalement de son côté ringard et le fait d'assumer qui met à distance finalement cette ringardise et qui la tourne en dérision, il y a quand même eu ce moment à Las Vegas, c'était de 2002 à 2008, grand moment aussi quand même de ringardisme, mais peut-être le moment aussi où commence à se dessiner l'idée que Céline Dion accepte ce côté complètement spectaculaire, artificiel, dans la ville du faux, où elle va se produire tous les soirs. Et c'est exactement ce qu'a bien saisi Valérie Lemercier, qui fait d'ailleurs partie, à mon avis, du public et de celles qui ont contribué à la rendre légitime auprès d'un public peut-être parfois élitiste, avec le film Aline. On en entend tout de suite un extrait.
C'est des chanteuses, il y en a plein dans le monde. Mais mon fils, une maman, il n'y en a rien qu'une.
On a tout fait. Justement, pour que tu puisses combiner les deux, Aline. 50-50. Écoute-moi. 6 p.m., make-up, soundcheck. 7 p.m., tu reçois tes invités avant le show.
Et je vais leur dire quoi? Ils auront rien vu.
Tu vas trouver, je te fais confiance. 8-15, tu montes sur le stage. 10-20, là, t'as fait ton show, tu sors de scène. 10-23, t'es dans la voiture, tranquille. 10-55, t'es rendu à la maison. Avec Junior. Là, t'es 5 années comme ça, tranquille. Oh non, non. Ah, oh. Mal. Ah,
toi, 5 années tranquille.
5 années tranquille comme ça. Pas merveilleux.
C'était donc un extrait du film Aline sur Aline Dieu, qui est un film en hommage à Céline Dion de Valérie Lemercier. Alors, il faut parler quand même de ce moment Las Vegas, parce que ça représente quand même 6 ans de sa vie. Et puis, on l'entend dans l'extrait, hein, c'est un rythme d'enfer. Donc, en fait, elle se produit tous les soirs à Vegas. Elle a reconstitué un palais romain. C'est à la fois très faux, très réel. Elle a complètement construit un personnage à ce moment-là. Ce qui annonce ce que vous disiez, Valentin Grimaud, sur le kemp et sur le fait de se créer, en fait, soi-même.
Alors, Las Vegas, c'est même plus long, parce que c'est 2002-2008, c'est la première résidence.
Ah oui.
Il y en a eu une autre qui a duré, je crois, de 2011 à 2018. Donc il y a.
Et c'est vraiment une grosse partie de sa carrière.
C'est une grande partie de sa carrière. Et en tout, il y a plus de 1000 dates. Elle a fêté un soir la 1000e date. Donc il faut imaginer que sa vie, son métier de quotidien, c'était de vivre à Las Vegas pour aller chanter à Las Vegas. Donc il y a une forme de sédentarisation dans sa carrière qui était un peu étonnante pour elle, qui était normalement une personne qui circule dans le monde en permanence. Et là. Plus que le schmaltz ou le camp, je dirais qu'à ce moment-là, elle est en plein dans le kitsch. C'est-à-dire le mauvais goût assumé, et pas forcément avec second degré. Je crois pas qu'elle soit dans la blague à Las Vegas. C'est un goût particulier d'une partie de l'Amérique, d'une partie de touristes qui viennent voir un type de spectacle qui est tout à fait artificiel, effectivement dans un temple romain refait, qui... est un spectacle à numéro, c'est-à-dire que chaque chanson a son propre univers, avec cet écran qui, à l'époque, était l'écran le plus grand du monde, une troupe entière de danseurs.
Tout est exagéré, en fait.
Tout est exagéré. Elle-même, c'est à ce moment-là qu'on voit I'm Alive. C'est ça qu'on imagine. On la voit sur sa scène, je sais pas combien de mètres, en train de courir et d'avoir un peu de l'électricité par cette chanson qui la transporte face au public. Et qui leur dit, vous êtes vivant. Enfin, c'est cette expérience, l'expérience Céline Dion, l'expérience Las Vegas, qui peut-être a été le début d'une forme de ridicule, puisqu'on s'est dit, finalement, elle s'enferme un peu là-dedans, dans un spectacle qui est ringard dès le début, qui nous correspond, enfin, pas vraiment à ce que pourrait être le goût, et encore, qu'est-ce que le goût, mais d'un goût plutôt européen ou français. Et donc, il y a une forme d'incompréhension à ce moment-là. Et puis surtout, c'est tellement bien rémunéré, et c'est une telle entreprise que les gens se disent, la voilà qui ne pense qu'à l'argent. Et comme on disait, enfin, on a entendu cette archive au début où elle dit qu'elle ne s'intéresse pas à l'argent, et je pense que c'est vrai, n'ayant eu aucun argent et ayant eu toujours le confort de la famille, le réconfort plutôt que confort.
Et puis ayant réussi très vite. Donc, effectivement, la question de l'argent s'est plus posée plus tard, quoi.
Oui. Et rarement dans sa vie s'est posé la question d'en profiter, d'ailleurs, de cet argent, puisqu'elle a toujours été en train de travailler. Et même quand elle s'était arrêtée pour donner naissance à son premier fils, ils préparaient Las Vegas, déjà.
Oui, d'ailleurs, c'est l'extrait qu'on a entendu du film Aline, c'est-à-dire que dans le film, c'est mis en scène de cette façon-là. Je ne sais pas ce qui correspond à la réalité ou pas, mais effectivement, elle vient d'avoir son garçon, elle ne veut pas partir de la maison, mais en fait, ils ont trouvé un moyen pour elle à la fois de se produire et en même temps de pouvoir s'occuper de son enfant. Et c'est toute l'organisation qu'on a entendue. Tu pars à telle heure, tu reviens à telle heure, tu chantes à telle heure, tu auras fini à ce moment-là et le lendemain, tu repars. Et comme ça, pendant plusieurs années de ta vie. Donc, il y a aussi quand même une forme de commercialisation, de dimension commerciale quand même de ce show qu'on peut pas négliger, quoi. Il y a vraiment l'accumulation entre l'artifice et le commercial qui effectivement, pour peut-être, c'est un cliché de français, mais la rend suspecte.
Oui. Oui, et par contre, ce qui est étonnant, c'est que tout de suite, elle a été suspecte auprès de tout le monde. On a dit que c'était une entreprise ringarde, mais en fait, ça a extrêmement bien marché du début à la fin. Ça a été extrêmement rentable et tous les artistes s'y sont mis. Et
c'est elle qui a eu cette idée-là, en fait, de commencer à créer une sorte de résidence show sur plusieurs années.
Alors, ça a déjà existé pour Elvis Presley, pour Frank Sinatra, donc des artistes en fin de carrière. Donc, une manière de se dire, je peux plus bouger, j'ai plus grand-chose à faire.
Mais j'ai quand même envie de chanter.
J'ai quand même envie de chanter, je serai sédentaire, tout va bien. Là, c'est quelque chose qu'elle a fait, elle avait 30 ans. Donc, les gens se disaient, mais c'est la fin de sa carrière, Céline, déjà, elle est périmée. Et en fait, elle a rendu ça plutôt, alors je dirais pas... appréciable d'un point de vue critique, mais les artistes ont vu les bienfaits de ce modèle-là, puisqu'ils c'est moins fatigant pour eux, c'est moins fatigant probablement pour la voix, même si vivre à Las Vegas apparemment c'est très compliqué pour la voix à cause de la sécheresse, du désert, et ils n'ont pas de tournée à faire, il n'y a pas de production à faire voyager, c'est beaucoup plus rentable aussi pour les promoteurs.
Mais sur ce... On voit bien, là, on a essayé de retracer quand même le parcours de Céline Dion, Valentin Grémaud. On a vu quand même qu'elle avait un côté un petit peu décalé, ringard. On a parlé des différentes esthétiques qu'elle a embrassées, le kitsch, le camp, le schmaltz. Et là, on a vu qu'elle avait atteint une forme de naturel, de sobriété dans les années 90. Et puis, quelques années plus tard, en fait, finalement, c'est presque... comme si, en fait, elle tournait le dos, en fait, aux années françaises, à une forme d'authenticité avec Las Vegas.
Oui, mais comme toujours, dans sa carrière, tout s'enchaîne un peu dialectiquement. C'est-à-dire que elle a fait Las Vegas, mais tout de suite après arrive Une fille et quatre types, un album écrit par Jean-Jacques Goldman et d'autres artistes français, qui est un album presque country à la française. Donc il y a toujours cette idée que on va ménager tous les publics, on va ménager toutes les images. Certes, je fais de l'artifice à Las Vegas, mais en même temps, je vais avoir un look plus authentique, un look à la garçonne d'ailleurs, à cette époque-là, un look plus authentique pour la France.
Donc en fait, il n'y a pas une seule Céline Dion, comme elle le disait. Au contraire, il y a une multiplicité de Céline Dion.
Ben, en fait, c'est pour ça que c'est vraiment une pop star pour moi, c'est que elle a une personnalité qui est unique, mais en termes d'image, elle a embrassé à chaque moment de sa carrière une nouvelle image, une nouvelle persona.
Merci beaucoup Valentin Grimaud. Alors de vous, on peut lire Céline Dion Vestal aux éditions Le Mot et le Reste, mais aussi Maria Carré Casta Diva aux éditions Le Mot et le Reste, toujours excellente édition. Alors on peut se quitter avec plusieurs chansons. On a failli écouter Ziggy, on n'a pas eu le temps, mais peut-être est-ce encore l'occasion. Il y a aussi la chanson Ashes qu'on connaît pas très bien, mais à laquelle vous êtes attaché. Il y a aussi I'm Alive, on a entendu un tout petit extrait. Et puis aussi la chanson Sous le vent, son duo avec Garou, qui, je crois, est fortement beaucoup interprété dans les karaokés à Paris et ailleurs.
Moi, je voudrais bien qu'on écoute Ashes, puisque c'est le clip qui m'a fait aimer la chanson. C'est un clip, c'est une chanson pour Deadpool 2, le film Marvel, dans lequel donc, elle chante très sérieusement. Puis d'un coup, Yanis Marshall, en combinaison, donc le chorégraphe de la Starac, mais qui est chorégraphe de Star depuis longtemps, débarque en combinaison de Deadpool avec des talons et se met à faire des grands battements, se roule par terre. Et c'est une chanson, en fait, qui peut sembler une chanson schmaltz, mais qui, en fait, parce qu'elle arrive à ce moment-là de la carrière de Céline, est une sorte de ballade blague. Et je trouve que ça correspond parfaitement à l'état de grâce qu'elle a eu ces dernières années avant de disparaître pour ses problèmes de santé. Elle était arrivée à un moment où elle a embrassé sa ringardise et elle en fait quelque chose de comique.
Merci beaucoup Valentin Grimaud et on écoute Ashes tout de suite.
What's left to say? These prayers aren't working anymore. Every word shut down in flames. What's left to do with these broken pieces on the floor? I'm losing my voice, calling on you. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke, watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come out of ashes. Let beauty come out.
Merci à l'équipe de Sans Oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laure Dallès, TF Coulot, réalisation Somaya Dabesh, Nicolas Berger, prise de son Timothée Hubert. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le demander ou encore sur l'application Radio France.